Making Waves Avignon présente.
À la jeunesse, le micro !
En direct du festival d'Avignon.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à qui ? Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Bonsoir à toutes et à tous, et à tous au milieu. Bienvenue sur notre deuxième plateau qui s'appelle « Tourner sa langue sept fois dans sa bouche et cracher ». Donc ça annonce bien le sujet, on va parler de liberté d'expression et de liberté en général. Bienvenue à tous.
Et la parole, elle est à qui ?
Et la parole, elle est à qui ?
Et la parole, elle est à qui ?
Est-ce que tu as peur de t'exprimer sur certains sujets avec tes parents ou pas du tout ?
En fait, quand je débat avec ma mère, à chaque fois, on s'engueule parce qu'elle accepte presque pas mon opinion. Elle a beau me dire qu'elle est pour qu'on débatte, c'est pas un débat. Elle, c'est juste elle crie ou alors elle m'écoute pas. Et dans ce cas, il n'y a pas d'intérêt parce que le principe d'une opinion, c'est on affiche des idées et après on argumente. Sauf que elle affiche son idée, son argumentation est assez faible. Et moi, j'essaye de placer les arguments, sauf que elle, ça fait un peu enfantin, quoi. Elle me coupe la parole ou quoi. Alors que pourtant, ils se disent très ouverts d'esprit, mes parents, sauf que des fois, ils comprennent pas. Et moi, des fois, je me sens obligé de les gronder presque, et ils aiment pas du tout. Parce que eux, ils estiment qu'ils peuvent hausser le ton sur nous. En revanche, que nous, s'ils font une bêtise, on doit pas du tout hausser le ton. Et moi, je trouve ça un peu agaçant parce que si vous avez un rapport d'autorité sur nous, au moins, ayez aussi un rapport de respect où vous nous expliquez quelque chose. Soit vous le dites, c'est pas en criant, et dans ce cas, voilà. Soit vous êtes prêt à vous faire gronder aussi.
Des fois, moi, j'ai envie de m'exprimer. Et on me dit, non, en fait, genre, arrête, parce que je suis plus jeune et que moi, je suis plus âgée que toi, donc tu peux pas me répondre. Mais en fait, le truc, c'est que, du coup, on garde tout pour nous et on se renferme sur nous-mêmes. Et après, ça nous dit, non, mais tu sais, tu peux tout me dire. Si tu m'empêches de parler, en fait, je vais vraiment pas m'ouvrir à toi. Voilà.
Moi, je pense que les parents, des fois, faut aussi les éduquer. C'est à nous aussi de leur apprendre et leur dire, maintenant, en fait, ces genres de choses, ça se dit plus. Parce que c'est plus possible de faire des blagues comme ça ou dire des choses comme ça. Un peu des blagues racistes où avant ça passait et maintenant ça passe plus parce que on est dans une génération où ces genres de blagues, nous ça nous fait plus rire ou ça passe plus du tout. Du coup, faut leur dire, faut leur expliquer et ils vont comprendre. Et du coup, il y a aussi de l'éducation envers les parents.
Et micro.
Bonsoir. Je vous avoue que le public, je vous aime bien, mais il n'est pas très diversifié. Il n'est pas très coloré. Il n'est pas très slay, quoi, mais je vous aime quand même. Et aujourd'hui, je vous invite dans mon beau plateau avec Robespierre, Basma, Elia et Clément. Et on va parler de sujets super intéressants. Et n'hésitez pas à nous filmer, à nous taguer. Et on sera super contents de pouvoir republier après. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Comment vous allez ?
Stressé.
Ah, il faut pas. J'ai dit, celui qui est stressé, il descend du plateau. C'est la dictature aujourd'hui.
Dictateur vos études.
Dictateur du soleil, mais dictateur quand même. Et est-ce que vous pouvez me donner une petite réaction que vous avez eue en entendant le reportage ? Ou si vous pouvez nous raconter, est-ce que vous vous sentez libre de parler de tout avec vos parents et votre famille ?
Moi, c'est tout le contraire. En fait, on a toujours cette façon de débattre avec mes parents de plein de sujets. Et ça, vraiment, ça a forgé mon opinion. Sur la vie, sur la société, sur plein de choses.
Moi, j'ai vraiment dans ma famille, par exemple, on n'est pas cette liberté de parole ou liberté de parler parce qu'il y a toujours les limites. Notre relation à la maison, c'est trop officiel. Comme ils sont la chef, et c'est comme ça, on n'est pas vraiment libre de parler.
Alors, mon point de vue sur ça, je ne pense pas que ce soit que quelque chose qui soit avec les parents, mais je pense que c'est plus quelque chose qui tourne autour des générations. J'ai l'impression que des personnes qui sont d'une génération, qui sont concrètement une personne plus vieille que nous, a beaucoup de mal à accepter que nous, on puisse leur répondre ou qu'on puisse leur apprendre certaines choses. Et ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être que si quelqu'un a la réponse, elle pourrait me le dire, ces gens ne supportent pas qu'on puisse leur répondre, qu'on puisse débattre de certaines choses et qu'ils puissent avoir tort face à nous parce qu'ils estiment qu'ils ont plus d'expérience, parce qu'ils estiment qu'ils ont plus vécu de choses que nous, donc ils ont forcément raison. Et ça tombe un peu dans de la mauvaise foi.
Ça, c'est vrai.
Moi, bizarrement, dans ma famille, on a... la parole, ça a été une arme, mais aussi une chose pour se couvrir. C'est-à-dire, ça, j'ai toujours eu un rapport super bizarre où on m'a toujours motivée à prendre la parole, utiliser ma voix pour revendiquer mon identité, mes combats, etc. Mais en même temps, il y avait toujours ce côté très codé, ouais. Surtout envers les parents, où tu ne devais pas dire un mot de travers ou un mot qui pourrait être mal interprété. Surtout quand tu parles plusieurs langues à la maison, il y a des choses en français, ça passe, mais dans d'autres, pas du tout. Et je me retrouvais toujours à avoir deux langages, un de l'extérieur et un à la maison. Et à la maison, il y avait même des langages qui étaient différents si on parlait aux parents, aux frères ou aux cousins. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de portes quand on parlait et quand on ne parlait pas. Le silence, ben, c'est quelque chose d'assez courant dans nos familles où on ne parle pas de choses taboues, on ne parle pas de choses qui bousculent. Et même la politique, vu qu'on vit dans un pays qui, on dit, n'est pas le nôtre, on se mêle que de ceux qui nous concernent. Et quand ce n'est pas à nous, ben, c'est à eux, ce n'est pas notre problème. Et toujours se faire petit, c'est-à-dire qu'on a toujours cultivé une parole, mais elle devait se faire petite et basse, à basse fréquence, quoi. Et Clément, on ne t'a pas entendu ?
Ben, écoute, dans ma famille, il y a aussi des tabous. Je dirais notamment au niveau sexuel. Mais à part ça, finalement, on a commencé à se parler assez récemment, à partir de mes 18 ans en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu parler de choses un peu plus complexes, de sentiments, etc.
Moi, j'ai remarqué, parce que ma famille, on ne parle pas. On est trop limité de parler librement parce que notre société, c'est comme ça. Les sociétés, il est vraiment, il n'y a pas de liberté. On n'est pas libre. Il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de choses interdites de parler et de questionner aussi.
Désolée, les amis, c'est super intéressant, mais je vais devoir introduire notre invité. Attendez, je ne vais pas écorcher son nom parce que quand même, on est poli. Ça se dit Blaye Mato Trias qui vient pour Barreau des Velles.
À la jeunesse, c'est les micros.
Les micros.
Bienvenue.
Merci.
Ne vous sentez pas attaqué, on est beaucoup autour de vous, mais ça va aller.
Oui, c'est ça.
Comment ça va?
Bah, ça va bien, chaleureusement. Ouais. Il fait chaud.
Il fait très, très chaud même. depuis tout à l'heure, j'essaye de garder l'apparence, mais j'ai très chaud aussi. On a plein de questions pour vous et mes camarades sont là pour ça.
J'ai vu dans une interview que vous avez dit que rire, c'était une belle manière de résister. Mais est-ce qu'on peut vraiment rire de tout avec tout le monde?
Peut-être que de tout avec tout le monde, sûrement pas. Mais on peut rire de pas mal de choses. Je pense que si on peut rire des choses avec les gens, ça enlève des barrières et des couches, justement. Et je vous entendais parler de la famille. Je pense que c'est très important aussi de rigoler en famille, justement.
Et vous riez de tout en famille?
De tout, non, mais je pense qu'on peut rire de pas mal de choses, même des sujets... Moi, je sais que avec mes parents, en tout cas, il y a des choses qui sont passées, que je n'osais pas trop parler, mais par contre, en riant, il y a des choses qui se sont décoincées, quoi.
Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est tourner sa langue 7 fois dans sa bouche et cracher. Mais en fait, le vrai thème, c'est la liberté d'expression. Et donc, avant de commencer, parce qu'aujourd'hui, on reçoit aussi des hommes politiques, et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui change selon... le point de vue, et j'aimerais vous demander, à vous en tant qu'artiste, pour vous, qu'est-ce que c'est concrètement la liberté d'expression?
C'est essayer de s'écouter pour s'exprimer justement dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, sans avoir à mettre des barrières ou des frontières pour se limiter. Donc c'est vrai que tout en respectant quand même, tout en gardant le respect et le savoir-être envers les autres, mais en même temps sans se brider, quoi.
Donc, vous êtes déjà censuré dans la vie professionnelle ou personnelle?
Non, bon, censuré, non, c'est plutôt... Moi, j'ai l'impression que ça a à voir avec savoir-être, c'est-à-dire que savoir être au milieu des autres, savoir se positionner, savoir respecter, tout en disant vraiment ce qu'on pense profondément, sincèrement.
Mais est-ce que lorsqu'on est subventionné, financé, rattaché à des institutions, on peut être libre de tout dire?
En tout cas, nous, dans nos spectacles, on fait vraiment ce qu'on aime, on fait vraiment ce qui nous plaît. On ne se dit pas qu'on va faire ça pour telle personne ou pour répondre à telle demande. Jusqu'à là, ça fait 25 ans qu'on fait des spectacles et c'est peut-être aussi que notre esthétique ou notre forme a eu la chance de trouver les spectateurs ou de trouver aux yeux des professionnels un certain intérêt. Mais on n'a pas changé notre expression pour ça. On a essayé de garder le fil de ce qu'on avait envie profondément de faire et on le fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de se mettre des barrières dans nos spectacles pour essayer de plaire ou complaire aux autres.
Il n'y a pas longtemps, on a pu discuter avec Ariane Mnouchkine. Je pense que vous la connaissez certainement.
Non, pas personnellement.
Pas personnellement, mais je pense que vous la connaissez.
C'est une artiste qui nous inspire.
Ouais. Et on a parlé beaucoup du théâtre comme outil pour donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Et j'aimerais savoir pour vous, est-ce que c'est une démarche pour vous d'essayer de, par exemple, de parler des mots de la société, de parler de ceux dont on ne parle pas, un peu des invisibles?
Ah bah, en tout cas, le sujet des invisibles pour nous était un sujet très important dans Kisson, dans la création qu'on vient de présenter ici au festival. Et aussi essayer de donner de la place à ce qu'on ne voit pas, donner la place à l'intuition, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas concret, à plus B, donner de la place au corps.
Vous voulez dire quoi par l'intuition?
C'est ce qu'on pressent, c'est des choses qu'on dit, tiens, je rentre ici, dans ce lieu, je ressens... que j'ai envie de faire ça, donner de l'importance à des choses que finalement dans notre société, il y en a de moins en moins. Finalement, dans des cultures plus anciennes, on donnait beaucoup de place justement dans les rituels, à ce qui venait un peu, à ceux qui n'étaient plus là, à convoquer, à célébrer.
Vous vous inspirez aussi de ce qui se passe un peu aujourd'hui concrètement dans la société. Par exemple, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de colère. On a l'impression que les gens s'expriment, mais qu'on ne les écoute pas. Est-ce que vous vous inspirez de ça, par exemple, pour vos spectacles, pour essayer de retransmettre ça?
Je pense que nous, on fait confiance au fait que le fait de vivre dans cette époque et que nos corps et notre esprit soient traversés par ça influe forcément dans les créations qu'on fait. Donc la réponse serait plutôt oui.
Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, on peut être libre de parler dans tous les espaces? Parce que vous parlez quand même d'un prisme assez privilégié d'artiste qui peut mettre en valeur son œuvre, peu importe le message que c'est. Comment est-ce qu'une personne lambda peut porter sa voix, ses opinions, dans des espaces où on ne sait pas ce qu'il y a en face?
Disons que je ne vais sans doute pas avoir la réponse à comment faire. Après, ce que je peux dire, c'est que si on donne du temps et de l'énergie à essayer de clarifier ce qu'on veut dire et comment le dire, comment le faire, comment on veut se positionner, c'est l'insistance et l'acharnement, je dirais, qui fait que petit à petit, ça passe, ça va forcément venir. Quand on donne de l'énergie à quelque chose, quand on met de l'envie, de la joie ou même de la colère, mais qu'elle est canalisée pour formuler quelque chose, j'ai l'impression que si on persiste, au bout d'un moment, ça vient, quoi. Ça.
Mais par exemple, dans la mise en scène de pièces, vous transmettez un message. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas être écouté du tout ou d'être heurté à un mur?
Nous, on a un peu du mal à se dire qu'on transmet un message. On a l'impression que ça nous plaît plus de dire qu'on pose des questions.
Okay.
C'est-à-dire que quand on fait des spectacles, c'est plutôt pour ouvrir des questions et des questionnements à notre public plutôt que leur apporter des messages et des réponses. Comme ça, justement, on pose des questions clairement sur l'écologie, on pose des questions clairement sur l'autre, sur la minorité, mais en même temps, on n'assène rien parce que les réalités de chacun sont très différentes. Donc, en fonction de comment on regarde ça, elles peuvent être interprétées aussi différemment.
Oui, c'est un peu pour ouvrir les gens à la réflexion, quoi.
Ouais, et à composer eux-mêmes leur propre histoire, que ça connecte aussi à eux avec leur parcours, leur vie. Ça peut connecter. C'est-à-dire, on ne fait pas des histoires qui sont déjà préécrites. On laisse des champs ouverts comme ça, et puis on essaye qu'elles soient au plus ouvertes possible, et inspiratrices, et des images qui nous racontent pour qu'on puisse à l'intérieur de ça, chacun avec sa vie, se raconter la sienne, quoi.
Désolé les filles, je vais juste emporter monsieur un peu avec moi. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. c'est le théâtre populaire. En fait, on a l'impression que moi, je vais d'un milieu populaire, big up à M. Troussel, je viens d'un milieu populaire et on a l'impression que le théâtre est de moins en moins populaire. Comment, en fait, on peut transmettre la parole des invisibles, des sans-voix, si on ne travaille pas avec eux et si concrètement, on n'est pas toujours en contact avec eux? Comment on peut faire pour peut-être rendre le théâtre un peu plus populaire?
Moi, je vais avoir du mal à avoir des grandes réponses là-dessus, déjà, parce que le théâtre, c'est
ouais, désolé, c'est parce que je vous ai sous la main. Hein,
oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on vient du cirque, et le théâtre, en tant qu'institution, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est ici, on est dans le cœur du vrai théâtre. Mais c'est sûr, comment faire que tout ça parle à tout le monde, que les gens se sentent, parce que finalement, ces endroits de représentation, c'est des endroits où c'est des endroits de communion, c'est des endroits où on vit des expériences émotionnelles ensemble et qui finalement nous créent du lien. Donc je suis assez d'accord que ça, il faudrait que ça s'ouvre à tout le monde et que ça ne soit pas que pour une petite partie de la population, ce qui est quand même un peu le cas. Comment faire? Mettre de l'énergie à ouvrir les portes, mettre de l'énergie à en faire en dehors de ces endroits-là. Après, on a quand même la chance en France d'avoir quand même pas mal d'institutions qui suivent dans toute cette énergie-là. La preuve en est là, c'est-à-dire vous êtes là aujourd'hui comme ça. Je pense que c'est des rares endroits au monde où ça a lieu. Donc c'est continuer, quoi. Ne pas se fatiguer. Et puis même si c'est beaucoup de boulot et d'entretien, et puis pas avoir peur non plus de se retrousser les manches et puis aller dans la rue, aller dans les quartiers, c'est-à-dire sortir dans des endroits qui servent que à ça, mais toute excuse est bonne pour faire théâtre.
Ouais.
Par exemple, le théâtre, ça devrait être une matière à l'école. Ça pourrait aider beaucoup de jeunes justement à sortir de leur bulle, à s'exprimer.
Oui, je suis assez d'accord. Même le cirque, la danse, la musique, tous les langages qui finalement sont très très présents ici dans les spectacles, je pense que c'est des choses qui peuvent faire partie d'une éducation et qui peut être, par rapport au monde où on vit aujourd'hui, peuvent peut-être servir beaucoup plus que certaines parties du programme qu'il y a à l'école. Oui, tout à fait. Parce que le corps, savoir marcher, savoir respirer, savoir projeter sa voix, savoir regarder, c'est des choses qui finalement font partie du savoir-être et qu'elles sont peut-être un peu oubliées et que finalement, c'est les techniques, les choses que nous, on pratique beaucoup pour être sur scène.
Alors, nos thèmes, c'est la liberté d'expression. Et donc, j'aimerais que vous vous exprimez, vous, en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une de ces causes, par exemple?
Nous, là, on a fait Qui sommes, on est une douzaine d'artistes au plateau, on est une équipe d'une trentaine qu'on a travaillé sur le spectacle. Et pour créer ce groupe, on a fait des expériences, c'est-à-dire on ne voulait pas travailler directement au plateau, mais on voulait aussi former le groupe par des moments de vie. Et un de ces moments de vie, ça a été faire un voyage avec Clowns sans frontières au Liban pour jouer pour des enfants réfugiés syriens dans des camps de réfugiés. Et c'est vrai que ça a été une expérience très forte qui finalement nous a beaucoup donné de l'énergie et de la force pour après se retrouver dans les plateaux et travailler. Moi, j'ai participé pas mal avec l'exposition de Clowns sans frontières et je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire un théâtre qui peut parler à tout le monde, cet endroit de populaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que les grands, les adultes se retrouvent que les petits ne peuvent pas. Et avoir un peu cette espèce de générosité comme ça, de pouvoir ouvrir le spectre du vocabulaire pour essayer de toucher différemment, c'est sûr, parce qu'on a tous, on est tous différents, donc du coup on a tous un spectre de vie, de créer. Dès qu'on voit une pièce, tout le monde est assis à un endroit différent, tout le monde ne voit pas la même chose.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi ce combat?
C'est quoi ce combat? Je sais pas. Nous, on se pose la question tous les jours. C'est faire. Le combat, c'est dire oui. C'est faire. C'est trouver les endroits où on arrive à se sentir exister tout en faisant pour essayer d'apporter nos petits grains de sable à cette société qui est un peu quand même en déclin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait tout à chacun pour trouver notre voie tout en aidant, quoi.
Merci beaucoup, Play, Mathéo Trias. Merci pour votre partage et votre discours nous parle beaucoup. Il représente Qui sommes du collectif Barreau d'Evel. Merci encore une fois.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et maintenant, nous allons écouter une création sonore comme tous les jours de Radio Campus. Cadavre exquise,
capsule sonore décomposée depuis l'extérieur des salles de théâtre du Festival d'Avignon.
Je penserais que les chaises sont dépareillées.
Et les spectacles déjantés
sont au rendez-vous aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. Un mystère vous attend et il est...
assis sur le balcon.
Et le copain sur le balcon d'en bas.
Sur le balcon d'en bas.
Le balcon d'en bas, je courais le matin.
Tourner cette fois sa bouche dans sa langue.
J'ai essayé de tourner cette fois ta bouche dans ta langue.
Sur le balcon d'en bas, je courais le matin très tôt et je transpirais de tristesse, teintée de lumière dorée. Et de joie secrète.
Les quatre mousquetaires.
Et pop et pop.
Prévert, mort ou vif.
Comte libertin.
Chut.
Attends, regarde, tournez cette fois sa bouche dans sa langue.
On n'a pas pris le temps de se dire au revoir.
C'est comme ça.
Où on va, papa?
Le journal fou d'une infirmière.
Tournez cette fois sa bouche dans sa langue. J'y avais pas pensé.
Monologue d'un chien bien coiffé.
La tristesse de l'éléphant.
Salade.
Tomate.
Oignon.
Je suis fière de...
traiter malgré ma fatigue.
Je garde le sourire et je suis de bonne humeur tous les jours.
Sauf le mardi,
parce que sinon le reste du temps, je prends le temps pour moi.
Je mange des pommes.
Qui sortaient de ma poche.
Le beau bijou.
Le beau bijou que ma mère m'avait offert alors que
j'étais assise sur les marches d'un escalier, deux jeunes femmes magnifiques sont venues pour me poser des questions.
Juste avant de passer au deuxième plateau qui a l'air très croustillant, nous allons passer un petit appel. Ah, désolé, je ne vous ai pas dit qui on appelait, mais on appelle Guillaume Maurice.
Yes.
Salut Guillaume.
Salut les amis.
Alors, Basma qui est en face de moi a un joli t-shirt avec ton nom écrit dessus.
Avec un cœur.
Alors, comment ça va?
Avec mon nom écrit dessus, mais avec une insulte qui l'accompagne, ou vraiment juste mon nom?
Non, juste ton nom. Juste ton nom.
Ok. Cool, mais bisous à tous. Comment ça va? Très bien. Et vous-même?
Ça va super. Dis-nous, tu te trouves où là actuellement? Pourquoi tu n'es pas avec nous à Avignon?
Alors, c'est une excellente question parce que j'ai beaucoup fait le Festival d'Avignon et puis là, je me suis dit, tiens, je vais plutôt rester glandouillé.
Ah.
Parce qu'on oublie souvent de glandouiller, mais il y a beaucoup de vertus dans la glandouille. Donc, j'essaie de mettre en application ma théorie. D'essayer de battre le capitalisme en faisant la sieste, comme le veut l'expression.
Je pense qu'on va piquer un peu votre routine pour les jours à venir.
Ma routine pour les jours à venir?
Oui, on va tous glander.
J'avoue qu'en ce moment, j'ai du mal quand même un peu à décrocher de l'actu.
Puisque, ah, moi aussi.
Disons que l'actu politique est assez frémissante. Donc, je dois avouer que quand je me lève, je vais faire un petit tour sur les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, voir ce qui se passe, ce qui a été dit. Moi-même, parfois, je tweete quelques blagues parce qu'on ne se refait pas. Mais quand même, je prends le temps de dormir et de profiter et des vacances et du chômage parce que je suis néo-chômeur. Donc,
bienvenue.
Donc, j'ai du temps, voilà. Merci.
Bon, Guillaume, aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression dans notre émission.
Ouais.
Et du coup, je crois savoir que tu es un peu concerné.
Oui, bien sûr. Donc, on l'est tous. Hein.
Oui, c'est
on
sûr.
L'est toutes et tous. Mais ouais, effectivement. Il y a eu un petit sujet. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la liberté d'expression alors?
Eh bien, alors déjà, on a tous lu les journaux et on a suivi tes péripéties.
Ouais.
Mais on va rappeler à nos auditeurs les plus dissipés que tu t'es fait licencier de France Inter suite à une blagounette.
C'est ça.
Voilà. Alors, maintenant que tu es libre, est-ce que tu prends le poste de Premier ministre?
Alors, j'hésite parce qu'il y a beaucoup de postes qui se libèrent en ce moment. Alors, Premier ministre, est-ce que ce n'est pas un poste un peu à la con, ça, Premier ministre? Est-ce qu'il ne faut pas mieux être président directement?
Ouais.
Parce que Premier ministre, c'est un peu infusible.
J'avoue, président, c'est pas mal.
Les affaires courantes, je ne sais pas, je me demande. Qu'est-ce que vous feriez à ma place?
Oh, j'attendrai 2027.
Ouais, c'est ça. Ouais, faut peut-être pas se précipiter. T'as peut-être raison. Ouais, vu la période, vu la situation, les rapports de force. Ouais, je vais rester sur ma ligne. Je vais rester un peu à glandouiller.
et plus sérieusement, du coup, comment tu envisages la suite de ta carrière?
Alors moi, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière. J'ai jamais vraiment été ni très ambitieux, ni j'ai jamais eu vraiment d'objectif. Mais là, il se trouve qu'on a quand même quelques propositions pour rebondir à la rentrée. Alors, je ne vais pas vous faire de scoop, je ne peux pas tellement vous en parler parce que tout ça est en train de se négocier. Mais comme on avait quand même une équipe assez dingue à Radio France, à France Inter, l'équipe du Grand Dimanche Soir, donc,
ouais.
Avec beaucoup d'humoristes, beaucoup de chroniqueuses et chroniqueurs que j'estime beaucoup et qui comptent parmi mes amis, évidemment. Je me dis que c'est dommage de laisser tout le monde s'évaporer dans la nature. Et comme par ailleurs, je vous disais que j'ai quelques propositions pour remonter à un projet avec tout le monde. Au-delà de ma morning routine, de suivre l'actu et de faire la sieste. Okay. Quand même, je prépare un tout petit peu la rentrée. Mais donc il y aura une actu à la rentrée.
Est-ce que vous allez brider votre parole pour être pas viré une deuxième fois?
Eh ben, je sais pas bien faire moi ça, brider ma parole. Et puis vu l'équipe dont je parlais, les Aymeric Lompré, Juliette Arnaud, j'ai évidemment prévu Pierre-Emmanuel Barré dans la remorque, hein, bien sûr, on prend les meilleurs. C'est pas des gens qui ont l'habitude de brider leurs paroles. Puis de toute façon, si on en est là aujourd'hui, si on a ce petit niveau de notoriété aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas bridé notre parole.
Tout à fait.
Si je prends l'exemple de Pierre-Emmanuel, qui est un exemple assez intéressant pour sortir un peu de mon cas personnel, Pierre-Emmanuel, il a fait une émission sur France 5 la saison dernière. Ils l'ont pris, donc c'était l'émission d'Ali Badou. Il a fait 3 chroniques et ils l'ont viré. Mais ils l'ont pris en sachant que c'était Pierre-Emmanuel Barré. Moi, je ne comprends même pas le principe d'embaucher quelqu'un et après de le virer exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'a embauché. Donc, on embauche quelqu'un en lui disant « Vas-y, sens-toi libre ». On sait que Pierre-Emmanuel, il a un humour, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais il a un humour assez trash, assez radical, et voilà, c'est son style. Donc, en l'embauchant, on connaît le style de la personne, normalement, si on fait bien son travail. Donc
ben après, là, ça me paraît toujours
un peu saugrenu de virer la personne en disant « Bah non, t'as été trop cash, t'as été trop radical, c'est pas acceptable pour la chaîne. » Bah, fallait y réfléchir avant. Donc souvent, ce qui nous arrive, c'est ça, c'est qu'on est embauché et qu'on est viré pour les mêmes raisons pour lesquelles on a été embauché. Mais on commence à avoir une petite habitude, donc on agit en conséquence, non pas en bridant notre parole, mais en continuant à user de la liberté d'expression. On dit toujours qu'un droit, ça disparaît si on ne l'utilise pas. Donc, je vous encourage, même vous aussi, j'encourage tout le monde à utiliser sa liberté d'expression.
Eh ben, merci beaucoup, Guillaume.
Merci.
On va devoir terminer. Oui, on va devoir terminer avec vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bon, en attendant, si la radio vous manque trop, vous êtes le bienvenu sur l'émission, évidemment.
C'est cool, merci beaucoup.
Où la liberté d'expression n'est pas remise en question.
Eh bien, j'espère bien. Continuez comme ça, les amis. Et merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci à vous d'être intervenu.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Salut, salut.
Maintenant, comme je vous l'ai promis, un plateau très croustillant. On est avec Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, et Olivier Neveu, qui lutte pour le théâtre politique. Et on va vous poser des questions, mais on ne va pas trop vous passer sur le grill, on va faire léger.
Un peu quand même.
Un peu quand même.
À la jeunesse, les micros.
Les micros. Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous.
Je suis toujours avec Clément, Robespierre, Basma et Elia.
Moi, j'aimerais bien vraiment savoir, est-ce que le préjugement de personnel ou collectif de certains de sociétés, il est plus fort que la loi et la justice, qu'il est à côté de nous en question de liberté de parole, parce que Guillaume Maurice, la loi à côté de lui et la justice à côté de lui, mais son histoire, elle était...
Dans une démocratie, la liberté d'expression, elle est même constitutive de ce qu'est une démocratie. Et en France, elle a même valeur constitutionnelle, cette liberté d'expression, puisqu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et justement, dans nos constitutions, on reprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est même une des garanties, un des principes de la liberté d'expression. Et la seule chose qui, encadre effectivement la liberté d'expression, c'est la loi, si l'opinion exprimée, c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la discrimination, c'est une opinion contraire à ce que dans notre cadre collectif, nous avons communément ensemble admis. Le racisme, qui n'est pas une opinion mais un délit, etc., etc. Et donc c'est la seule chose, il n'y a que la loi qui, dans ces conditions, peut dire si l'expression qui a été émise, eh bien, elle n'est pas conforme à la loi. Mais la loi, le juge, pas une direction de radio ou une direction de chaîne.
Alors, il y a de nombreux événements récents qui nous ont montré que la liberté d'expression en France, elle était grandement menacée, et ce, sans l'extrême droite au pouvoir, pour le moment. Donc, je pense notamment au licenciement de Guillaume Meurice, qu'on vient d'appeler, mais aussi au président Emmanuel Macron, qui censure le peuple en ne respectant pas les urnes et en ne reconnaissant pas le gagnant des élections législatives. Le droit à l'humour ainsi que l'expression du peuple par les urnes n'ont pas été respectés dans ces deux cas. Vous, est-ce que vous vous sentez libre de tout dire ?
Bah, en tout cas, dans une démocratie, je considère encore une fois que, oui, la liberté d'expression, elle est inscrite, ça fait partie de nos droits fondamentaux. Et c'est ce qui nous permet d'exprimer des opinions, c'est ce qui nous permet de manifester, c'est ce qui nous permet de revendiquer, c'est ce qui nous permet de faire la grève sans risquer d'être sanctionné ni sans ingérence des autorités publiques. Ça, c'est notre cadre commun. Dès lors qu'on a le sentiment les uns et les autres que notre liberté d'expression n'est pas respectée, n'est pas entendue, eh bien, dans ce cas-là, il y a la loi qui est le juge, et seulement le juge, encore une fois, qui peut dire si elle est mise en cause.
Vous savez, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup avec vous, Olivier Neveu. On me dit que vous militez pour du théâtre politique, c'est ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement un théâtre politique ? Qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'est pas déjà ?
Alors, il y a plusieurs choses dans la question, mais juste dire avant, sur réagir quand même, sur le fait que... Moi, je suis universitaire, je suis prof de fac, et avant que Macron fasse ce qu'il est en train de faire, là, on voit en essayant d'écraser ou de nier ou de contourner une volonté populaire, ça fait quand même des années que, par exemple, dans le monde de l'université, il y a des attaques très, très fortes contre la liberté d'expression. Je pense notamment, on avait hier un débat ici même sur la Palestine. Il y a un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, qui ont des difficultés à monter des projets, des colloques qui ont été annulés, censurés. Et ça passe pas directement par la loi. C'est des choses beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus sournoises, qui sont pas directes. Et je pense que si on allait, et Guillaume Meurice s'y va aujourd'hui ou demain, certainement les juridictions lui donneront raison par rapport à son licenciement. Donc la question, effectivement, il y a la loi qui protège, mais avant la loi, il y a des institutions, il y a des rapports de force, il y a du pouvoir, et on sait bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est encore évidemment un gouvernement démocratique, mais qui a des tendances très fortement autoritaires. Ça ne vient pas de lui, hein. Ça avait déjà commencé sous le gouvernement et de Sarkozy, et puis sous le mandat de Hollande, avec des répressions extrêmement fortes des manifestations et des manifestations populaires. Moi, ça fait quelques années, quand on part en manif, on ne sait pas si on reviendra avec ses deux mains, avec ses deux yeux, et bon, on sait ce qui se passe. Donc on est pris dans une logique autoritaire. Encore une fois, on a la possibilité de s'exprimer là. Et effectivement, la loi nous protège, mais il y a plein d'autres manières de faire pression, des pressions subreptices, des pressions économiques et des rapports de force du pouvoir. Tout ça, c'est pas pour ne pas répondre à la question du théâtre politique, je vais le faire.
Pas nous esquiver.
Allez-y, vous inquiétez pas.
Et donc, sur le théâtre politique, pour peut-être on peut partir de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'est pas toujours déjà politique ? On peut dire oui, d'une certaine manière, il est toujours déjà politique, le théâtre. Mais quasiment tout est toujours déjà politique. On est des êtres qui vivons en société. Donc, il y a toujours de la politique parce qu'il y a toujours des rapports d'oppression. On doit, par exemple, au mouvement des femmes dans les années 70, d'avoir dit le privé est politique et tout est politique. Et ça a permis de venir révéler comment des pans entiers de la vie sociale qu'on croyait sans politique, en fait, étaient organisés avec des rapports de force, des rapports de pouvoir. Donc oui, le théâtre est toujours politique. Mais si on dit que tout est toujours politique, en fait, on arrive à un moment où on n'arrive plus à définir ce que c'est que la politique, puisque tout, elle se dissout dans tout et toute chose.
Ça devient un mot valise, quoi.
Ça devient exactement un mot valise, un mot qui sert à tout le monde, et puis aussi un mot un peu valorisé, parce que c'est devenu un peu chic de dire qu'on fait de la politique sans prendre aucun risque, et c'est juste des proclamations un peu vertueuses, où on se raconte que nous, on est du côté des... Bon, etc., etc., on en connaît beaucoup, et on en connaît beaucoup dans le monde artistique et dans le monde universitaire.
Et selon vous, est-ce que la liberté d'opinion, il est changée par l'OTAN ou non ? Est-ce qu'on est libre maintenant ?
Bah nous, on est libre, oui. On est plus libre que dans un paquet de circonstances et pays. Il ne s'agit surtout pas... Enfin, on a tous eu très, très peur que qu'un parti antisémite, révisionniste, fasciste, raciste arrive au pouvoir, parce qu'on savait ce qu'on avait à perdre aussi sur nos libertés publiques. Donc, et on ne sait pas pour combien de temps on est protégé de ce danger-là. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on vit dans un État fasciste sans liberté d'expression. On a encore des possibilités de liberté d'expression. Après, il ne faut pas nier les régressions extrêmement fortes depuis un certain nombre d'années, les menaces qui pèsent. Et ces menaces, elles sont alors à la fois très directes. Il y a des moments où, avec des licenciements, avec de la répression policière, avec de l'intimidation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses sournoises. Il y a aussi la mainmise, parce que la liberté, elle est aussi économique. Elle a aussi à voir avec des possibilités de pouvoir parler, etc. etc. Et puis, elle a une dernière répercussion, c'est l'autocensure. Et c'est que quelque chose se joue aujourd'hui qui domine et qui pourrait être la peur. Mais je ne pense pas du tout qu'on soit dans un moment où on ne puisse plus rien dire. La preuve.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Stéphane, alors j'aurais une question. Qu'est-ce que le nouveau Front populaire proposerait pour inverser cette tendance où la liberté d'expression est menacée de plus en plus ?
Déjà par rapport à ce qui vient d'être dit, le fait que à la fois des pressions, la concentration, des concentrations économiques et financières, le fait qu'un certain nombre de médias soient désormais à la main de certains groupes économiques qui finalement dictent un certain nombre de valeurs et de principes, ça c'est un des éléments, comme le disait Olivier, c'est un des éléments qui contribue à la limitation de la liberté d'expression. Donc moi, j'ai le sentiment que dans une démocratie comme la nôtre, ce qui doit garantir la liberté d'expression comme les autres libertés, c'est notamment la question du service public. Alors, même si des exemples récents, notamment sur le service public de l'audiovisuel, nous laissent penser que même à l'intérieur du service public de l'audiovisuel, des mises en cause sont possibles. Mais en tout cas, le service public, et d'ailleurs c'est vrai pour l'audiovisuel, et c'est vrai aussi pour le fait que le grand service public de la culture, le fait que les lieux de création, les lieux de culture, le théâtre, ça doit être des lieux justement où par la liberté d'expression, par la possibilité de donner à voir et permettre y compris à ceux qui ne peuvent pas dans d'autres lieux et autrement exprimer des points de vue différents, et bien puissent trouver là justement à faire entendre leur opinion, leur expression. Et ça me paraît être le grand enjeu face à ce rouleau compresseur que l'on connaît depuis 20-30 ans dans les pays occidentaux, à la fois des nouvelles formes du néolibéralisme qui, au contraire, par la concentration économique, finalement limite notamment la liberté d'expression. Et donc, cette question du service public me paraît être essentielle par rapport à cette question-là, mais à bien d'autres.
On va respirer un peu. C'est vrai que là, c'est dense. Il y a beaucoup de mots compliqués. Et là, on va passer à la partie de la chronique quotidienne. Et aujourd'hui, c'est Linda qui nous la présente.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
1-2-1-2-1-2 Free Palestine. Ok, ça marche. Alors, pour cette émission qui s'intitule « Tourner cette fois sa langue dans sa bouche et cracher », je vous propose un petit précis sur la liberté d'expression. Enfin, je vais plutôt essayer de vous raconter comment je rôde autour de ce concept en 26 ans d'existence. J'ai élaboré un petit stratagème. Stratagème provisoire en 4 axes pour s'exprimer librement. 1. Se confier sur un sujet clivant. Moi, je ne porte pas mon kéfier en dehors des manifestations parce que j'ai peur. Mais c'est déjà un soulagement pour moi d'avoir trouvé cette safe place pour kéfier parce que en manif, le kéfier posé sur mes épaules raconte quelque chose qui s'étouffe. Je m'étouffe. Quelque chose s'est cassé à l'intérieur de moi et s'est calé comme ça en travers de ma gorge. Quelle partie à l'intérieur de moi ? J'ai trouvé la réponse grâce à Shakespeare. Shakespeare ? Avignon ? Ok. On en arrive donc à mon deuxième axe, le clin d'œil qui fera plaisir à votre public. Hamlet a dit « Brise-toi mon cœur car je dois me taire ». Et une fois le cœur brisé, c'est beaucoup plus facile de se taire. Et la discrétion est une arme implacable. Par exemple, si vous êtes au hasard algérienne, vous éviterez de parler arabe devant vos amis blancs. Petite, vous vous laisserez recoiffer plusieurs fois par jour par votre mère pour noter vos boucles. Et plus tard, vous endosserez le rôle de l'arabe intello pour avoir 20 sur 20 en intégration. J'en viens à mon troisième point. Dire « on » au lieu de « je ». J'invente rien, en tout cas, c'était comme ça pour moi, à l'école, au lycée, à la fac. On m'a appris à écrire des dissertations. Et donc, on a appuyé sur les mots des autres. Dans une dissertation, il faut supprimer le « je ». On ne dit pas « je », on dit « on » ou « nous ». Je me disais que c'était parfois utile pour tenter des hypothèses que j'aurais jamais osé dire en mon nom. On parle à la place de l'humain en général comme ça, et souvent, c'était parfait pour oublier la colère. Dire on et parler d'autre chose. Quatrième et dernier point, parler tout doucement en souriant. Je suis sincèrement fatiguée de devoir me défendre de mille choses chaque fois que je veux parler de l'occupation de la Palestine. Quand vous n'êtes pas radical avec le terme décolonial, je vous trouve ni audible ni crédible. C'est pas à moi de vous expliquer pourquoi votre remarque slash question est raciste ou misogyne ou islamophobe. Conclusion. Parler à voix basse même pour dire tout ce que j'ai envie de dire, je trouve ça trop frustrant. Et puis il y a eu l'autre jour où je me lavais les mains chez ma copine Louison et là, il y a eu une phrase de Rebecca Chaillon accrochée au-dessus du lavabo. Mais t'as cru qu'on allait rester là à faire du bruit en silence. Donc j'ouvre un dernier axe à ce petit précis sur la liberté d'expression. Faire du bruit en souriant pour donner l'impression de ne pas être en train de tout détruire, l'air de rien. Tahia Palestine.
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse et micro.
Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que la première émission de hier vous a plu. Est-ce qu'il vous a plu? Oui ou non? Je m'appelle Enzo et je vais vous présenter un musicien qui est incroyable et qui fait de la guitare et qui va faire le feu aujourd'hui sur le plateau de Mickey Ways Avignon. Et c'est Laurent Baudin, c'est à toi de jouer.
Ok, merci Enzo. Bon, un petit morceau qui s'appelle Ciao Lana Vamas, des frères Exposito, qui date de 1974, qui est le morceau préféré de Roberto Goyeneche, qui est un grand chanteur argentin. Voilà, j'espère que je vais lui faire honneur. Merci. Ciao, rien ne va plus. C'est la loi de la vie en devenir. Ciao, rien ne va plus. On a cramé les balles et les fusils. Je t'ai montré comme tremble la peau quand notre amour est né, même si j'ai pas mal frayé à côté, car personne n'a vécu sans tuer, couper une fleur, se parfumer et continuer. Vivre, c'est changer, céder la place à un progrès qui t'est fatal. Ciao, rien ne va plus, simplement la vie continue. Quelle misère de sentir encore la vie d'hier et te laisser partir sans pleurer. Si je pouvais t'acheter un bébé, inventer une autre vie et chanter. Quelle misère de se laisser ravir un futur à peine supposé. Mais on ne peut revenir à hier. Tu te dois d'avancer. Vas-y, mollo, c'est de la dialectique pure. Ça te reviendra et se passera tant de fois dans la vie. J'ai dit, tu te souviens? Commencer à peindre tous les jours sur le paysage mort du passé et réaliser chaque fois que nécessaire nouvelle musique, nouvelle sur nouveau piano. Tu peux déjà choisir le piano, créer la musique d'une nouvelle vie et la vivre intensément jusqu'à la prochaine équivoque et ensuite repartir de zéro et puis revenir à l'équivoque, mais simplement vivre, vivre l'intensément, parce que sais-tu ce que c'est que vivre? Vivre, vivre, c'est changer. Sur n'importe quelle vieille photo, tu le verras. Ciao, rien ne va plus. Tire un trait sur le passé et continue. Si le nôtre n'a été ni gagnant, ni perdant, ce fut la vie, rien de plus, dans l'intention du fameux quasi-bébé, tu dois toujours revenir à l'essai, qu'il est dur de planter dans le dos l'amour, sans avoir d'autre peau où se poser. Mais allez, la vie est en fleurs, tu te dois de continuer.
Merci beaucoup. On va revenir dans la discussion, mais là, je vous avoue que j'ai un gros problème. On doit tenir une discussion en 5 minutes, parler vite et court.
J'aurais une question que j'aimerais beaucoup poser à Monsieur Troussel. C'est une question un peu personnelle, donc je ne sais pas si je peux la poser, si quelqu'un a une autre question, si ça va à tout le monde.
Vas-y.
C'est bon, ça va à tout le monde ?
Oui.
Tout le monde est d'accord ?
Ouais. Peut-être non.
Mais vous n'êtes pas exclu, hein, Olivier. Vous n'êtes pas puni.
Non. Moi, ce que j'aimerais poser à M. Stéphane Troussel, en fait, vite. Depuis tout à l'heure, on parle de grands concepts, on parle de grandes choses, mais j'aimerais revenir un peu à échelle humaine. Moi, j'habite à Bobigny et j'aimerais beaucoup parler de la liberté d'expression. C'est bien, mais si on ne nous donne pas la parole pour l'exprimer, ça ne sert à rien. Donc, je voulais savoir un peu, moi, je viens de Bobigny et je fais partie un peu de ces groupes à qui on retire la parole. Tout le monde parle de nous, mais on n'a quasiment jamais l'occasion de parler de nous-mêmes. Donc, j'aimerais savoir, vous, par exemple, comme président du département, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous un
Est-ce
peu
que je peux accompagner de la même question ?
Vas-y.
Moi, je suis réfugié politique et yéménite. Et ici, en fait, toujours j'ai peur que si je parle, j'écris librement, et si encore, je veux aller où ? Au Yémen, j'ai écrit, je parlais, j'étais en prison, et après, je suis là, en tant que femme réfugiée politique. Et maintenant, ici en France, il y a des limites pour parler. Si moi, en tant que réfugiée, une femme, si je parle librement, ce sera comment aussi ?
Bon, d'abord dans la responsabilité qui est la mienne d'élu local, en tout cas j'essaye de faire en sorte qu'il y ait des lieux, des espaces d'expression, y compris pour celles et ceux qui, je le disais tout à l'heure, n'ont pas forcément la possibilité d'exprimer ces opinions. Quand on développe des lieux de culture et de création en Seine-Saint-Denis, quand on soutient des lieux de culture et de création justement qui doivent être des lieux où la liberté d'expression, où y compris des opinions qui peuvent s'exprimer parce que ça doit être des lieux où à la fois qui peuvent choquer, qui peuvent par rapport à des idées ou des opinions communément admises, mais que ces lieux justement doivent favoriser le débat, la confrontation d'idées, mais tout en cherchant aussi à rassembler, eh bien ça fait partie justement des orientations. Quand bien même, bien évidemment, comme élu, il n'est pas question d'intervenir sur la programmation de ces lieux-là, mais en tout cas par les orientations qu'on développe dans des politiques publiques, eh bien, il y a ce souci-là, justement, de donner, d'avoir des espaces et des lieux qui donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément. Et deuxième chose, quand je pense aussi à un programme qu'on a développé il y a quelques années en direction notamment des plus jeunes et des collégiens, un programme qui s'appelle Agora, qu'on a développé notamment à la suite des attentats de 2015 pour justement permettre aux élèves, aux collégiens de s'interroger, de débattre de cette question de la liberté d'expression, en particulier tant avec des journalistes, des créateurs, des dessinateurs de presse, parce que ça doit être justement des endroits, des espaces où les opinions peuvent s'exprimer et être débattues.
Ces espaces existent, mais on a toujours cette problématique, et je pense qu'Olivier, vous avez pu l'observer quand vous parlez de théâtre politique, c'est que ces espaces existent, mais en même temps, il y a cette bizarreté où on ne peut jamais s'approprier ces espaces-là parce qu'on n'est pas habitué à être considéré dans l'espace public.
C'est ça, on ne sent pas forcément légitime.
Mais on est là, on n'existe pas en même temps.
En tout cas, je pense que c'est une question qui nous est posée à nous, élu, responsable politique, mais qui est posé notamment à tous les responsables, directeurs de lieux, d'équipements, de favoriser cette participation et cette expression-là. Et oui, il y avait un débat tout à l'heure sur le théâtre, est-ce qu'il est politique, comment justement il permet aussi cela. C'est une question qui est posée à chacun de nous. Moi, j'ai eu ce débat-là ce matin avec Cathy Bouvard, la responsable des ateliers Médicis. On l'a régulièrement avec Hortense Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, pour faire en sorte que, justement, ça soit des lieux où ces expressions, ces opinions, la possibilité donnée aux invisibles, eh bien justement d'avoir des lieux où ce débat, ces expressions, elles peuvent se dire et parfois même s'entrechoquer, parce que c'est le meilleur, c'est ce qui permet aussi la rencontre et l'hybridation dans la société.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'autocensure et on le retrouve aussi dans ce discours-là. Mais comment se met en place l'autocensure ?
Par la peur, c'est-à-dire que par des espaces de liberté qui sont... progressivement empêché, grignoté. Puis un jour, on se dit, regardez, Guillaume Meurice, on en parlait tout à l'heure. L'idée quand même du certainement de France Inter aujourd'hui, c'est de faire peur à tous les autres qui pourraient avoir les mêmes idées. Et on voit bien comment la peur prend de plus en plus de place. Et c'est pour ça que la question de la liberté, elle est fondamentale, mais il faut toujours la penser historiquement. Elle est prise dans des rapports de force économiques, politiques, dans des résistances. Et quand vous dites aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison, qu'il y a des espaces où on a l'impression que certaines personnes ne font pas partie de l'espace public, si on s'en aperçoit aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a des mouvements sociaux qui viennent exiger qu'un certain nombre de personnes soient comptées dans l'espace public. Et ça, c'est très, très important. Et on voit émerger des nouvelles formes de résistance, des nouvelles formes d'apparition.
Restez résistant. Et quand vous prenez la parole, veillez toujours à ce que l'autre ne se sente pas exclu. Et quand vous êtes une personne blanche, gardez en tête que d'autres personnes n'ont pas la chance de parler de leur vécu et que leurs normes n'existent pas aux yeux d'autres. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu rencontrer dans plein de choses. C'est que les normes qui sont valables pour vous n'existent pas pour d'autres. Et gardez ça en tête pour être bienveillant et accueillir la parole de tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à nos invités.
Bravo.
Merci pour ce beau plateau. C'était vraiment important pour moi de parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche depuis toute petite et comme vous le savez, j'ai une grande gueule, je me tais jamais, mais j'aime ça. Et maintenant, pour conclure cette émission, cette belle émission, on va accueillir Idriss qui nous écrit chaque jour un morceau de son.
La beauté m'a chuchoté des phrases bizarres. Je marche solo dans le blizzard. La beauté m'a chuchoté des phrases bizarres. Je marche solo dans le blizzard. Renseigne-toi sur son passé, car la dot c'est pas la même. Maintenant que t'es tempes, tu sais même pas si elle t'aime. T'as détaillé tes sentiments comme la quête plat. J'ai passé toute la nuit à parler au plafond. Je suis OP pour la prochaine plafond. Plus grand chose à perdre, beaucoup à gagner. C'est elle que tu vas marier, j'ai peut-être des photos d'elle. Tu pensais que c'était ta petite Hellel. Tu te poses des questions, où elle a pu apprendre cette position. Tu t'enfermes dans la potion ou dans le pilon. Maintenant il s'en bat les couilles, il veut faire passer les kilos. Des fois je me pose, je repense à l'époque du vélo. J'étais solo dans ma bulle, je me voyais sur la lune. Du coup j'ai aiguisé ma plume. Ça paye pas moi, j'ai trop faim de thune. Dans la rue on veut y faire fortune. Ce soir je me cale, je me crame les neurones. Sur la tête main, je mets la couronne. Ça paye pas moi, j'ai trop faim de thunes. Dans la rue on veut y faire fortune. Ce soir je me cale, je me crame les neurones. Sur la tête main, je mets la couronne. Voilà, c'est bon.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous.
C'était À la jeunesse les micros, un projet de Making Waves et du Festival d'Avignon, avec aujourd'hui à l'antenne Maria Masseidi, Robespierre Ganro, Basma Nazer, Clément Chaise et Elia Fedjak. Nasser, pardon. Les chroniques étaient signées par Linda Swakria et Idriss Vivard. Le reportage par Enzo Coquerel et Noah Dimenza. La séquence musicale était présentée par Enzo Coquerel, avec aujourd'hui en live Laurent Boudin. À la technique, Miguel Brunebo et Louise Bréon. À la rédaction de cette troisième émission, Renaud Lupovici, Noah Dimenza et Bertie Gadeau. Notre prochaine émission aura pour thème l'empathie. On recevra l'humoriste et chroniqueur Lou Trottignon, Caroline Julia Nguyen, metteuse en scène de Lacrima, et Lofty Nia, traducteur et interprète dans le domaine du soin. Et à la musique, Mai Mitchell. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets de Making Waves sur notre site www.mkwaves.org. À demain.
Vous pourrez écouter ou réécouter notre série d'émissions partout en France, sur le réseau des Radio Campus, ainsi que sur Radio Montessoro en Corse, Radio Coquelicot et Radio Kikangron dans l'Allier, Radio Zanzine dans les Alpes de Haute-Provence, RAM 05 dans les Hautes-Alpes, Radio Bouton dans les Ardennes, Radio Marseillette dans l'Aude, Radio Saint-Afrique dans l'Aveyron, Radio Galère dans les Bouches-du-Rhône, Radio Tintoin dans le Cher, Radio Libre en Périgord en Dordogne, Radio Méga et Radio Saint-Féréol dans la Drôme, Radio Évasion dans le Finistère, Radio Grille Ouverte et Radio Escapade dans le Gard, Radio Montpaillis en Haute-Garonne, Radio Paulbert en Gironde, FM Plus Montpellier dans l'Hérault, Radio Grésivaudan dans l'Isère, Radio Dissy dans la Loire, Radio Barthas en Lozère, Radio Sud-Manche dans le Maine-et-Loire, L'autre radio en Mayenne, RPL Radio en Meurthe et Moselle, Radio Valise et Timbre FM dans le Morbihan, Radio PFM Arras dans le Pas-de-Calais, Radio Quetch dans le Bas-Rhin, Radio Calade dans le Rhône, Radio Alto en Savoie, Radio Semnoz en Haute-Savoie, Radio Octopus dans le Tarn, Radio Ayoli et l'Écho des Planches dans le Vaucluse, Radio Millepattes dans l'Essonne.
Et la parole, elle est à qui ?
Et la parole, elle est à qui ?
Et les médias, ils servent à quoi ?
Et les médias, ils servent à quoi ?